avoir une idée, une préconception de qui est Jésus devrait nous permettre, au fil des lectures de l'Évangile de cette année, au fil des rencontres de Jésus quand il cheminait en Palestine, de mieux découvrir la profondeur de sa personnalité, de mieux découvrir en quoi, comment il est le Messie, en quoi et comment il est le Fils de Dieu. Et c'est sans doute en ce début d'année cette lumière qui nous est proposée à travers ces deux titres, voilà, ces deux manières d'appeler, de voir le Christ. Il est le serviteur souffrant, il est le serviteur de Dieu et il est l'agneau de Dieu. Ce terme agneau ne tombe pas du ciel. Il a été préparé par tout l'Ancien Testament et notamment par le prophète Isaïe. C'est la première lecture que nous avons reçue ce matin. Reprenons cette lecture rapidement pour en tirer l'essentiel, pour comprendre en quoi elle nous parle du Christ. La prophétie d'Isaïe arrive et donnée au peuple alors qu'il est en exil. C'est le temps de la déportation, c'est un temps de malheur, un temps d'angoisse. On a perdu Dieu. Dieu était avec nous et à cause de nos propres fautes, se dit le peuple, nous avons perdu notre grand bien. Nous sommes orphelins, nous sommes sans Dieu, nous sommes déportés. Le danger quand nos fautes nous accablent, c'est que le désespoir, le manque d'espérance, voilà, s'insinue dans notre cœur. Quelques-uns parmi le peuple en déportation essaient de soutenir l'espérance. Et voilà que le prophète lui-même est envoyé avec une parole de Dieu pour soutenir cette espérance. Et que dit le prophète au peuple? Il lui dit que dans cette déréliction, cet écrasement, au moment où on a l'impression qu'il n'y a plus d'issue, eh bien que Dieu appelle. « J'ai besoin de toi, dit Dieu à son peuple. Je fais de toi mon serviteur. Tu seras mon prophète. » Dans cette situation d'esclavage qui est la tienne, je vais te libérer et tu vas témoigner par la libération qui est la tienne que je suis un Dieu libérateur, pas simplement pour toi, mon peuple, mais pour toutes les nations. Voilà le message, voilà que le prophète Isaïe distille dans le cœur des siens pour entretenir leur espérance. Ce peuple est en train de devenir prophète lui-même. Il le devient à travers un petit reste, ceux qui accueillent cette promesse de Dieu. Ils y croient. Voyez combien c'est grand de croire dans la promesse de Dieu, dans les promesses de Dieu. C'est déjà quelque chose de grand. Parce que ça permet à Dieu d'agir, de réellement, ça va venir quelque temps après, de venir libérer son peuple. Et c'est le moment où le peuple, voilà, sans faire grand-chose, voilà, nous sommes sans doute souvent dans ces situations. Nous sommes dans une forme d'impuissance et en même temps, combien nous manifestons que Dieu est grand quand dans notre impuissance, nous accueillons son action, que nous ne nous doutons pas de son action en nous. C'est ainsi que le peuple reçoit cette parole « Alors, voilà, moi, ton Dieu, je me glorifierai en toi. » La splendeur de Dieu éclate, c'est là le miracle que Dieu veut, à travers nos fautes même, ça éclatera à Pâques bien sûr, heureuse faute qui nous a valu un tel salut, un tel sauveur. Eh bien c'est déjà cela en germe qui est semé dans la responsabilité de ce peuple d'Israël. Le serviteur de Dieu dont parle le prophète Isaïe, c'est en même temps le prophète lui-même sans doute et le peuple. On devine ce qu'on appelle une personnalité collective. C'est en même temps ce prophète, le petit reste et le peuple tout entier qui sont prophètes. Je crois que c'est important de garder ça en mémoire. Car il y va sans doute de même pour le Christ. Il nous représente tous dans sa mort, dans sa passion, dans sa résurrection. Mais en même temps, le Christ, c'est chacun d'entre nous. Le Christ, c'est l'Église. Et donc la même responsabilité d'être prophète à notre tour, comme Jésus, comme le Christ l'a été, nous incombe. Le serviteur de Dieu, bien sûr, c'est le prophète, c'est le peuple, mais d'une manière incomplète. Celui qui va accomplir les prophéties, nous le savons, c'est le Christ. Un des chants du serviteur dans le prophète Isaïe dit que ce serviteur sera sauveur étonnamment par sa souffrance. En étant, nous dit le prophète Isaïe, ailleurs dans un autre texte, comme un agneau, une brebis conduite à l'abattoir et qui reste silencieuse, comme un mouton qu'on tond et qui ne se révolte pas. Étonnant, comment cette absence de révolte peut-elle sauver et nous sauver? C'est ce qui est concentré dans la parole de Jean-Baptiste que nous avons entendue ce matin, quand il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Comment est-ce que cet agneau, essayons voilà, de susciter en nous à nouveau un émerveillement, même si ce mystère nous dépasse? Comment est-ce que cet agneau, ce Fils de Dieu, nous sauve dans voilà, cette innocence qu'il a sienne? Le prophète nous dit qu'il enlève le péché du monde qui le porte. Qu'est-ce que ça veut dire, porter le péché? Nous savons bien que Jésus n'a pas péché, qu'il est innocent. Mais nous comprenons donc que le prophète nous dit que Jésus assume, en tant que personne collective, en notre nom à tous, les conséquences du péché. L'angoisse de la séparation, d'être comme le peuple en exil. Voilà, c'est cela que Jésus, il nous a rejoints pour nous, se mettre lui-même dans cette situation véritablement, de la ressentir, pour la vivre autrement, d'une manière différente de nous. C'est en cela que le Christ va nous ouvrir le chemin et nous sauver. Oui, le Christ porte réellement la souffrance du monde, nos angoisses, il les a connues. C'est à Gethsémanie particulièrement que l'angoisse du monde, le péché du monde repose sur lui. Et quand Jésus dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ces paroles sont d'une grande sincérité. Elles sont vraies. Jamais homme n'a été autant fait pécheur que lui, n'a autant été séparé, loin, éloigné du Père que lui à Gethsémanie. Jésus accepte cela librement, parce qu'il aime le Père, et qu'il nous aime, parce qu'il sait que le Père veut nous sauver, chacun, chacune. Ainsi donc, c'est en ce sens, me semble-t-il, que Jésus porte le péché du monde. Il porte toutes les conséquences à l'avance de nos péchés. Elles sont déjà assumées par lui. En cela, il est victime, il est agneau. Mais il n'est pas simplement agneau, il est agneau sans tache, sans péché. Et je le comprends comme, bien sûr, avant sa passion, Jésus n'a jamais péché. Mais surtout, ou davantage encore, dans sa passion, quand le mal va totalement reposer sur lui, Jésus ne commettra pas encore le péché. Il ne va pas se révolter. Il ne va pas exercer une contre-violence par rapport à la violence qui lui est faite. C'est en cela que Jésus nous sauve. Le mal ne l'a pas incité à maîtriser lui-même la situation qu'il vivait. Il ne s'est jamais laissé séparer du Père, même si, sensiblement, le Père était totalement absent pour Jésus à ce moment-là. Et c'est normal, parce qu'il voulait vraiment vivre les conséquences du péché. Jésus, c'est vraiment dans la foi pure qu'il a remis son âme, son existence dans les mains du Père. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » C'est donc en étant victime, librement, mais sans péché, agneau sans tache, que Jésus devient l'agneau victorieux, celui dont nous parle l'Apocalypse cette fois-ci. Oui, rien n'a pu le séparer de l'amour de Dieu. Telle est la victoire du Christ, et c'est notre victoire. Il n'est pas mort rien que pour lui, il ne s'est pas sauvé lui-même, mais en se sauvant, il nous sauve. Car le Père ne peut que recevoir ce Fils qui en croit s'abandonne à lui. Déjà avant la Passion, Jésus pouvait dire de son Père : « Mon Père accomplit toujours ce que je lui demande. Il écoute toujours ce que je lui demande. » Comment le Père ne pourrait-il pas l'exaucer alors qu'il est pleinement Fils, totalement Fils en croix ? Et que demande ce Fils à son Père pour nous ? Il dit simplement : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus ne nous pardonne pas lui-même, c'est déjà fait. Mais pour que nous sachions que nous sommes pardonnés, il le demande au Père. Et il nous excuse, il est notre avocat définitivement, car nous ne savons pas ce que nous faisons. Alors merci Seigneur, merci à Jean-Baptiste sans doute, d'avoir été rempli de l'Esprit-Saint, pour nous indiquer un peu le chemin de l'accueil du Seigneur, du Christ, tout au long de cette année. Demandons peut-être ces grâces au Seigneur, à la faveur de cette Eucharistie, que l'émerveillement, une capacité renouvelée d'émerveillement, habite nos cœurs.